Le complice par André Rezé. Une gaie lumière matinale dorait les vieux murs de la citadelle et les pittoresques maisons juchées sur la colline de la Sorcas, quand ce jour-là, Ramon Martinez sortit de la CO des Urgelles avec Mathildita et son père. Il les accompagna encore un peu sur la route, flattant de la main le cheval de la jeune fille. Jusqu'à ce que les deux cavaliers eussent disparu, il resta là, une main sur les yeux, admirant la silhouette légère et gracieuse de sa fiancée. Sans cette maudite livraison de cigares qu'il retenait à son usine, avec quelle joie il eût profité de la promenade. L'ingénieur Aguilar allait avec sa fille au devant de son fils Pablo, qui revenait de voyage par la montagne, et Ramon Martinez n'avait pas de meilleur ami que Pablo. 6 semaines plus tôt, celui-ci était parti pour la France à travers les vallées sauvages de l'Andorre. Il devait, aujourd'hui même, le retrouver tout près, derrière la frontière qui sépare de l'Espagne la minuscule République. Ce soir, on fêterait le retour du jeune homme. Futur collaborateur de son père, Pablo étudiait encore à Madrid. C'était un solide et beau garçon de 22 ans, épris d'indépendance et de grand air. Durant les vacances, il aimait à cheminer seul sur sa mule par les sentiers perdus. Il venait de visiter ainsi la grandiose vallée de l'Ariège, où les torrents roulent des paillettes d'or dans leurs eaux tumultueuses blanchies par les rocs. Et Ramon se consolait de n'avoir pu suivre Mathildita, en songeant que l'excellent camarade, auquel il donnerait bientôt le nom de frère, lui raconterait le soir même les impressions de son voyage. Une jeune fille jolie, aimée, galopant sur la route et qui se retourne pour dire adieu de la main, cela fait une belle image. Cela peut devenir une torturante vision. Le soir, la nouvelle parvint brutalement à la CO des Urgelles que l'ingénieur et sa fille, tués à coups de fusil, avaient été découverts par des douaniers entre le village d'Arcabel et la frontière andorrane. Les habitants de la Cerdagne sont paisibles autant que leurs rudes voisins des vallées indépendantes. Si les carabiniers vêtus de gris vert, coiffés de cuir verni sont nombreux, si les contrebandiers foisonnent, on échange peu de coups de feu. En ce pays dont la terre ingrate se prête mal à la culture, les montagnards se livrent au commerce clandestin avec une sorte d'ingénuité et, à défaut de marchandises, les carabiniers, sensibles à l'offre d'un verre de rancho, ont de l'indulgence à revendre. Le drame bouleversa d'autant plus la population qu'il déroutait complètement la vraisemblance et la logique. L'ingénieur Aguilar, auteur d'un projet de voie ferrée qui devait relier l'Espagne à la France par l'Andorre, était très connu et très estimé dans toute la région. On admirait la beauté si nettement catalane de Mathildita, et dans les petites rues tortueuses de la CO, les bambins la suivaient en escorte, renseignés depuis longtemps sur sa générosité. On aimait Pablo pour sa force et sa belle humeur. On le plaignit davantage d'avoir appris le crime, brusquement, en trouvant à un détour de sa route les douaniers penchés sur 2 corps. Le double assassinat ayant été commis à la frontière, la justice espagnole enquêta de concert avec le bail d'Andorra, mais ni sur le territoire du royaume, ni sur celui de la République, on ne découvrit le moindre indice susceptible de révéler une piste. Des semaines se succédèrent sans rien apporter à l'enquête. Il n'y avait pas eu vol. Alors, une vengeance. Mais qui pouvait avoir à se venger de l'ingénieur si bienveillant toujours et si bon, de Mathildita surtout? Qui, répétait farouchement Pablo Aguilar, durant les longues soirées que Ramon et lui passaient ensemble à chercher, écrasés de chagrin, dans l'angoisse de l'inconnu. De l'autre côté de la frontière, dans les montagnes désolées de l'Andorre, fouettées par le vent, il y avait des hommes qui savaient, des hommes et une femme. Le jour, on pouvait les rencontrer par les sentiers avec leurs bêtes tournées de harnachements cuivrés et de pompons rouges. Drapés dans leurs tapaboques et coiffés de la rouge barrettina, ils étaient de ces honnêtes muletiers que Sainte Autonie protège. La nuit, l'oreille aux aguets, chacun d'eux ployait sous 25 kilos de marchandises diverses dont l'odeur n'était point pour le flair des douaniers. Grâce à eux, les cigares, le tabac andorran passaient en Espagne et l'absinthe espagnole arrivait en France. C'étaient des hommes braves et courageux en face du danger, presque timides devant la femme qui les commandait. Pepa les menait au regard, comme à la cape le matador mène le taureau, tous, même Garcia, et Garcia passait pour le montagnard le plus farouche. Le soir, quand les lueurs attardées du soleil couchant nuançaient de rose et de violet les pics neigeux haut dressés dans le ciel froid, quand montaient des ravins l'ombre bleuâtre, débordante, qui égalisent tout, Pepa chantait aux guitares. Il l'écoutait avec extase. Elle rejetait la noire capuxa qui est la coiffure des andorranes, et son pur profil apparaissait alors dans la lumière mourante dont les grands anneaux d'or de ses oreilles accrochaient les derniers reflets. Avec une ardeur passionnée, Elle chantait ses coplas populaires où s'exprime l'âme espagnole. Quand viendra l'heure de ma mort, je veux que l'on m'enterre assis pour que tu puisses dire « Il est mort, mais il m'attendait ». Les cordes des longues guitares vibraient dans la tristesse du crépuscule. Au loin, sur un sentier, sonnaient les grelots d'une mule. Mâchonnant leurs cigares, les contrebandiers se taisaient, remués. Nul n'était plus sensible aux chansons de la Pepa que le plus silencieux, le plus fermé de la bande, Garcia. C'était Garcia qui avait tué. Ayant quitté le foyer familial pour échapper au rôle presque méprisé de cadet, quand son frère, Matteo, avait, suivant la coutume andorrane, reçu le titre d'héritier, il était devenu conducteur de mules. Personne ne connaissait la montagne mieux que lui. Personne ne connaissait la montagne mieux que lui. Personne n'aimait plus âprement les abîmes vertigineux où mugissent les torrents, les sommets dénudés sur lesquels souffle en gémissant le rasero, les sentiers vides sinueux entre les touffes de buis et les rares sapins, les pentes sournoises qu'il faut franchir à certaines heures, l'hiver, pour éviter la glissade et l'avalanche. Resté fidèle au costume national, il portait, avec la barrettina, la veste courte, la ceinture et le gilet rouge, la culotte bleue, les guêtres du véritable andoran. Et il méprisait les montagnards qui s'expatrient pour s'assurer une existence moins rude. Quand on parla de cette voie ferrée, qui en traversant les vallées menaçait les antiques traditions d'Andorre, il se prit d'une haine farouche pour l'ingénieur Aguilar. Il connaissait bien cet Espagnol, pour l'avoir vu souvent, soit à San Julia de Loria, soit à la CO de Urgel. Le hasard était cause du malheur. Un matin que Garcia cheminait seul près de la frontière, il s'était trouvé face à face avec celui que, dans son raisonnement primitif, il rendait responsable de tout. Le coup de feu partit avant que le contrebandier eût compris à quelle force il obéissait. Et puis, dans l'effarement du crime, une deuxième balle abattit la jeune fille, témoin redoutable. Pepa et ses compagnons réprouvaient le meurtre, mais abhorraient la délation. Par prudence, ils abandonnèrent momentanément la contrebande. La montagne, d'ailleurs, était infestée de carabiniers qui, rompant avec l'habitude, n'eussent pas tous tiré en l'air en apercevant les fraudeurs. Ils ne se cachaient point pourtant. Dans cette pittoresque auberge de la CEO, dont les mules occupent le rez-de-chaussée et les clients le premier étage, ils écoutaient parler les gens en buvant du rancio. Ainsi se tenaient-ils au courant des recherches de la police. Garcia ne redoutait pas la garrota, qui inflige un affreux supplice aux criminels. Il ne regrettait rien, mais s'ennuyait de l'inaction nocturne à laquelle Pepa les contraignait. Souvent, il la sollicitait de reprendre leurs expéditions à travers la montagne. Elle aussi aimait cette vie-là, et la nostalgie la prenait, des longues étapes difficiles, dans la pénombre, par des sentiers rocailleux. Le temps s'écoulait, les esprits se calmaient, la police n'avait rien découvert. On disait Pablo Aguilar reparti pour Madrid. La bande, un soir, reprit la montagne, vers la France d'abord, par les cols de Puy-Morins et d'Embalire. Et puis, peu à peu, vers l'Espagne. Une nuit qu'ils avançaient silencieusement sous les sapins noirs au bord d'un torrent, dans la direction d'Arcabel, un homme exténué leur tomba dans les jambes, provoquant le désarroi dans la petite troupe. Pepa se pencha sur lui, il dit, haletant, « Les carabiniers m'ont tiré dessus. Ils me poursuivent. Je n'en puis plus. C'est fini. Livrez-moi si vous voulez. » « Pour qui nous prends-tu, camarade ?» gronda Garcia, « nous ne sommes pas des traîtres. » « En arrière !» commanda Pepa. Ils l'emmenèrent. Deux heures plus tard, ils firent halte en sécurité dans la montagne. L'homme était jeune, beau, misérable. À travers ses haillons, on distinguait des tatouages sur ses bras. « D'où viens-tu ? » « Je me nomme Esteban. Mon passé ne regarde personne. J'ai des raisons pour quitter l'Espagne. Je passerai en France dès que je le pourrai. » « Il y a l'extradition ?» remarqua Pepa. L'homme eut un geste là et baissa la tête. La femme avait pitié de lui. « Je n'ai pas le choix des moyens, » dit-il. « Quoi qu'il advienne, je vous remercie, camarade. » Le lendemain, ils lui donnèrent un costume de velours et un béret. Rasé, propre, il avait fière mine. Plusieurs nuits, il les accompagna, silencieux, adroit, infatigable. Dans la journée, il se cachait. « Pourquoi ne le garderions-nous pas ?» demanda la Pepa un soir. « C'est un bon muletier. Il nous est attaché par la reconnaissance. » Garcia l'observait en dessous. « Prends garde, Pepa. Si un jour les carabiniers le reconnaissent, tu as peur ?» Il haussa les épaules. L'homme resta. Esteban réclamait comme une faveur les missions les plus dangereuses, s'aventurait dans les cols couverts de neige, se tirait de tous les mauvais pas. Les autres admiraient son audace tranquille, mais Garcia, d'instinct, le détestait. Comment n'eut-il pas remarqué que Pepa subissait de plus en plus le charme et l'influence de l'étranger? Pour lui seul, elle se drapait maintenant dans un châle rayé de rouge. Pour lui, elle avait planté un grand peigne d'écailles dans ses cheveux lisses. Pour lui, elle chantait plus souvent les sombres et ardentes coplas d'Espagne. Quand ils causaient à l'écart, elle mordillait machinalement la fleur d'un iris sauvage et ses yeux noirs brillaient. Esteban, du reste, ne quittait guère la Pepa. Lorsque la troupe faisait halte, il s'asseyait près d'elle. Il se parlait lentement, avec ses demi-sourires qui en disent plus long que des mots. Garcia connaissait le proverbe espagnol. L'homme est le feu, la femme l'étoupe, le diable, le vent qui souffle. Et il souffrait. Esteban et Pepa s'aimaient en effet. La présence de leurs compagnons pesait sur eux. Un soir, ils étaient assis devant l'âtre dans l'humble chaumière qu'elle habitait en un lieu désert, dans la montagne, sur le chemin d'Andorra. Du buis sec brûlait sur la pierre du foyer. Quand la flamme s'élevait, on voyait naître de l'ombre, contre la muraille, une reproduction de la Nuestra Señora de los Agustillas, patronne de Grenade, scintillante de verroterie. « Si tu voulais, Pepita. » Elle se pencha pour le voir en face à la lueur du feu, car elle le sentait frémissant d'hésitation et d'inquiétude. « Si je voulais ?»« Je sais où trouver de l'argent en Espagne, » dit-il à voix basse. « Tu me suivrais ?»« Nous irions loin, loin des contrebandiers et des carabiniers, en Amérique du Sud, par exemple. Nous serions heureux. » Elle le regardait, toujours haletante. Une tristesse infinie montait dans ses yeux noirs. « Pourquoi si loin ?»« Je veux bien te suivre à la ville. Nous irons au théâtre, à la corrida, nous irons danser. Mais quitter la montagne pour toujours, est-ce que je le pourrais, voyons ?» Avec une sorte de tendresse maternelle, Pepa lui prit les mains et se rapprocha de lui. « Tu ne m'as jamais demandé qui je suis, » murmura-t-elle. « Qu'importe. Ce que je suis, je ne le sais pas moi-même. Toute petite, j'étais déposée à l'hospice d'Urgel avec une bourse pleine d'or. Andorran, sans doute. Quand, majeure et libre, je suis revenue dans ce pays, les femmes m'ont méprisée, les hommes m'ont insultée. J'aurais pu gagner l'Espagne ou la France, mais la montagne me tient, la montagne me gardera. Je l'aime comme si elle m'avait ensorcelée. Cette vie d'aventure est pleine de dangers pour toi, Pepita. Tu me suivras à l'étranger et nous nous ferons une existence nouvelle. » Elle secouait douloureusement la tête. « Il y a donc dans ton passé un secret bien terrible ?» demanda-t-elle enfin. « Plus terrible que tu ne peux l'imaginer, Pepita. » Elle lui posa ses doigts tremblants sur la bouche. « Ne dis rien, je t'aime. » « Et moi, parce que je t'aime plus que tout, désespérément, j'ai peur, peur pour toi. » « Garcia, ouais. » Elle lui tend le corps. « Garcia n'a rien à dire, je le tiens. C'est lui qui a tué Aguilar et sa fille. » Esteban, le menton appuyé sur ses mains, dit tranquillement « Je m'en doutais. » Ils restèrent de nouveau sans parler, l'un près de l'autre, devant le feu. Brusquement, la porte s'ouvrit. « Buenos tardes !» C'étaient les compagnons qui arrivaient pour une expédition, et ils se mirent en route. À quelques jours de là, un matin, ils étaient arrêtés au bord de la Valira, près du village de Las Escaldas. L'eau bouillonnait à leurs pieds, charriant des pierres rondes. Là-haut, tout là-haut, dominant une cime de leurs accents circonflexes, à peu près immobiles, des aigles planaient. Esteban assurait la charge d'une mule dont le bât venait de tourner. Garcia l'aidait. Ils entendirent les grelots d'un convoi, invisible encore, qui approchait, puis, peu à peu, une chanson. L'homme avait une belle voix. Il ne chantait pas en catalan, mais en espagnol. Maintenant, on distinguait les paroles. Sur la place royale, hier au soir, on vendait la parole d'un homme. Personne n'en voulait. Garcia s'aperçut que les doigts d'Esteban tremblaient. Il regarda son visage, et son visage était pâle. Cependant, les muletiers espagnols passaient. Garcia en connaissait deux ou trois de vue. En tête, marchait un beau garçon au regard intelligent. C'était lui qui chantait. Ils se saluèrent sans engager la conversation, et chaque convoi poursuivit son chemin. Garcia ne dit rien. Mais une inquiétude imprécise le tenaillait. Pourquoi cette émotion soudaine chez Esteban, dont il connaissait le courage? Peut-être la chanson réveillait-elle en lui un souvenir. Cependant, confusément, il redoutait quelque chose. Et plus il voulait écarter cette idée, plus elle l'obsédait comme le rythme du chant restait dans ses oreilles. Alors, il surveillait davantage l'espagnol, patiemment, sournoisement, avec cette volonté tenace qui l'apportait à tout. il surprit des lambeaux de ses conversations avec la Pepa. Maintenant, la jalousie le torturait, sans qu'il en parût rien sur son visage fermé, et lentement, avec cet esprit lourd des montagnards, il imaginait des vengeances. Depuis la rencontre des muletiers à Las Escaldas, Esteban se montrait nerveux, inquiet. Ses yeux ne semblaient plus voir devant lui qu'une obsession mystérieuse. À travers la porte, une nuit, Garcia l'entendit qui, chez Pepa, pressait celle-ci de le suivre à l'étranger avec tant de chaleur et de conviction que la femme, peu à peu, cédait. Le meurtrier n'hésita plus. Il devait, le surlendemain, passer du tabac à la frontière espagnole. En cachette, il se rendit à la CO des Urgel et fit porter à la police, par un petit garçon, une lettre sans signature révélant l'expédition. Il ajoutait que parmi les contrebandiers se trouvait un homme qu'on cherchait. Pour ne pas susciter la méfiance, Garcia prit la montagne avec les autres cette nuit-là. Que lui importait son propre sort, puisque de toute façon, il lui fallait renoncer à la Pepa. Comme d'habitude, ils s'arrêtèrent dans la masure, où ils livraient la marchandise à leurs complices. Un silence épais stagnait aux alentours. Ils s'installèrent pour boire en attendant de repartir. Brutalement, avant qu'ils eussent pu saisir leurs armes, portes et fenêtres volèrent en éclats. Des carabiniers se jetèrent sur Pepa et ses hommes, les maîtrisèrent après une lutte acharnée mais courte. Un seul demeurait libre, Esteban.
« Qu'attendez-vous pour vous emparer de celui-ci ? »
cria Garcia. « Ne savez-vous pas que c'est un bandit, un forçat évadé ?» Mais il se tut soudain, écrasé de stupéfaction, en apercevant, derrière les uniformes des carabiniers, un homme, un monsieur, dont les traits lui rappelaient un souvenir récent. Il l'avait vu, cet homme. C'était Santa Madonna. C'était le muletier qui, à Las Escaldas, précédait les autres en chantant. L'homme s'était approché d'Esteban. « Pourquoi ne revenais-tu pas, Pablo ? » demanda-t-il tristement. L'autre, tête basse, n'osait le regarder en face. « Maudis-moi, Ramon, j'ai été lâche. Pendant que je cherchais à préciser mes soupçons, à démasquer l'assassin, je me suis pris d'amour pour cette femme. De peur d'avoir à la quitter, je ne pouvais me résoudre à livrer celui qui a tué mon père et ma sœur. Maudis-moi, car j'ai vécu près de lui, j'ai partagé son pain, le voici. » De rage, Garcia faillit échapper aux soldats pour se jeter sur l'Espagnol, mais son rugissement fut couvert par le cri déchirant, le cri sauvage de la Pepa.
« Toi ? »
hurla-t-elle, tendue vers Esteban. « Tu serais ? » ?»« Je suis le fils de l'ingénieur Aguilar, oui, Pepita. Pour venger mon père et ma sœur, j'ai joué cette comédie. Je me suis fait tatouer. J'ai passé à tes yeux pour un homme hors la loi. » Secouant ses liens comme une bête prise au piège, elle cracha dans sa direction « Traître !» On entendit derrière elle le ricanement de Garcia. Pablo joignit les mains. « Pepa, Pepita, je ne t'ai pas trahi. J'ai toujours été sincère. À ma place, n'aurais-tu pas agi comme moi ? Je savais que l'assassin se trouvait parmi vous, mais plus tard, quand j'ai acquis la conviction que tu étais innocente du crime, comment aurais-je résisté à l'élan qui, chaque jour davantage, me poussait vers toi ? Si vous êtes tombé dans un guet-apens ce soir, ce n'est pas moi qui vous ai dénoncé, je le jure devant Dieu. » Ramon Martinez sortit de sa poche un papier froissé couvert d'une grossière écriture. Pablo le lut et le tendit à Pepa. « Bois, dit-il, c'est la dénonciation qui me justifie. » Lentement, le regard de la jeune femme s'écarta du papier pour se fixer sur la face torturée de Garcia. Elle dit, très bas, « C'est toi, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, c'est moi. Je souffrais trop. Je vous hais tous les deux, je vous... » Il écumait. Les contrebandiers, méprisants, s'écartaient de lui. « Emmenez-le !» commanda le lieutenant de carabiniers. Il sortit, bousculé, porté plutôt, en s'étranglant avec ses injures. Pablo s'était approché de l'Andorane. « Me crois-tu maintenant, Pepita ?» Elle ne dit rien, mais défaillante, laissa tomber sa belle tête brune sur l'épaule du jeune homme, et pour la première fois depuis des années, doucement, comme une simple femme, elle pleura. Ainsi s'achève Le Complice par André Rezé.